Bienvenue dans le débat. Imaginez que votre propre voix ne vous appartienne plus. Que chaque cri, chaque hurlement guttural qui déchire votre gorge soit vraiment le seul rempart entre votre famille et la mort.
C'est une image assez terrifiante, ouais.
Exactement. Et aujourd'hui, on explore le roman Banshees d'Irlande et plus particulièrement ce fameux rite viscéral du Cainadé.
La lamentation funèbre.
Voilà. Cette tradition transmise de mère en fille, elle est au cœur d'une tension fascinante dans le livre. S'agit-il d'un bouclier vital, d'une acceptation nécessaire de la douleur ou bien d'une chaîne redoutable qui condamne ces femmes ?
Et on n'est pas du tout d'accord là-dessus.
Non, pas du tout. Moi, je suis convaincu que l'œuvre dépeint cette tradition comme une protection indispensable. C'est une véritable catharsis émotionnelle face aux ténèbres.
Eh bien, j'ai une lecture complètement différente. Pour moi, le texte nous montre au contraire une malédiction aliénante. C'est un fardeau archaïque qui vampirise littéralement la force vitale de ces femmes pour préserver les autres.
Mais attendez, la mécanique même de ce monde prouve que le rite est une nécessité absolue. Regardez les conséquences du choix de Nuala.
Nuala, qui s'enferme dans le mutisme après la mort de sa fille, oui.
C'est ça. Elle ne fait pas que fuir son propre deuil. Elle crée un vide. Et la mythologie du roman est très claire. Ce vide attire le chaos. En refusant de chanter, elle laisse le Dulahan, le faucheur, pénétrer dans la vallée.
Je vois ce que vous voulez dire.
Ce cavalier se nourrit justement des chagrins refoulés. Donc pousser cette plainte déchirante, c'est dresser une barrière acoustique et magique qui repousse la mort. C'est vraiment le seul salut possible.
Vous parlez de salut, mais regardez le prix de cette soi-disant magie. Il suffit de revenir à Cliona, la banshee originelle.
Oui, pendant la famine.
Voilà. Pendant la famine, elle ne dresse pas un bouclier. Elle se vide de sa substance. Elle meurt d'épuisement, littéralement effondrée sur le dernier corps du village, à force de pleurer les morts des autres. Ce n'est pas une catharsis du tout.
C'est extrême, certes.
C'est un sacrifice total. La lignée exige que ces femmes consument leur santé mentale et physique, purement et simplement.
Mais là, vous confondez la difficulté de la tâche avec sa nature profonde. Si on regarde comment le rite fonctionne concrètement dans le texte, l'extériorisation, c'est la clé.
C'est sa nature et justement carcérale. Prenez la façon dont Nuala elle-même décrit le médaillon d'argent, l'incarnation physique de ce fardeau. Elle prévient Nora de manière implacable. Elle dit « c'est une chaîne et elle te tient et un jour elle te tirera là-haut ».
C'est vrai, elle dit ça, oui.
La tradition fonctionne exactement comme une digue que l'on construirait avec la chair même de ses bâtisseurs. Alors oui, cette digue, elle protège le village de Balinro de l'inondation macabre, mais elle noie systématiquement les femmes forcées de la maintenir.
Je rejette totalement cette analogie de la noyade. Le véritable emprisonnement dans Banshees d'Irlande, c'est pas l'expression du deuil, c'est la rétention. Rappelez-vous l'explication de Fintan.
Ah, le vieux Fintan.
Oui, il démonte parfaitement cette idée de chaîne quand il dit « le champ, c'est une main tendue au passage. Quand ta grand-mère a jeté le champ, elle a coupé la main. La lamentation sert de conduit pour guider les âmes et expulser la toxicité de la perte. »
Sauf que ça les détruit physiquement.
Non, le silence de Nuala pendant 9 ans, il l'a rongée de l'intérieur, la rendant amère et dangereuse. Fintan le résume d'ailleurs brillamment. Le chant, petite, c'est l'inverse de tenir. C'est lâcher.
Je veux bien entendre l'idée du lâcher-prise, d'accord. Mais pourquoi ce relâchement doit-il être si atrocement destructeur? Le texte s'attarde continuellement sur la douleur physique.
La gorge en feu.
La gorge en feu, la sensation d'avoir le ventre déchiré. Et surtout, ces femmes ne pleurent pas seulement leur propre disparu, elles absorbent la terreur de toute une communauté.
C'est le rôle de la banshee.
Mais le village instrumentalise leur sang. On maquille en soi-disant libération thérapeutique ce qui est, de fait, un martyr imposé par le groupe.
C'est un martyr uniquement parce que la mort elle-même est une déchirure. Le Cainadé ne crée pas la douleur, il lui donne une forme pour qu'elle ne détruise pas l'esprit. Sans cela, l'humanité de ces personnages imploserait.
Ou bien elle pourrait enfin exister en dehors de la mort des autres. C'est là toute l'ambiguïté magistrale du folklore irlandais exploité ici. Le personnage de Nuala incarne cette tension psychologique à la perfection.
Absolument.
Elle déteste la chaîne, mais elle sait intimement ce qu'il en coûte de la briser.
On touche là au cœur de la question qui dépasse largement la simple mécanique magique. Est-ce qu'on se protège en érigeant des murs de silence ou en hurlant sa peine à la face du monde ?
Et l'issue de la nuit de Samhain, avec cette menace imminente du cavalier sur Maeve, pousse vraiment Nora dans ses ultimes retranchements face à ce dilemme.
Tout à fait. Et on ne révélera pas ce qui se passe, bien sûr, mais c'est toute la force de ce roman. Il ne donne pas de réponse facile. chaque lecteur devra affronter ses pages pour comprendre jusqu'où Nora devra aller pour survivre à cet héritage.
Exactement. La prochaine fois que l'on vous transmettra une tradition familiale, la question se posera peut-être différemment. S'agit-il d'un abri contre la tempête ou de l'ancre qui vous empêche d'avancer ?
La réponse se trouve peut-être quelque part entre les deux.